Alors, il est évident que l'époque que nous vivons, enfin les jours que nous vivons actuellement, nous angoissent, nous font poser tout un tas de questions, nous font aussi craindre ce qui pourrait se passer dans l'avenir, tout en mettant notre espérance aussi en Dieu, et j'espère en nous rapprochant de Dieu aussi par la prière et par la lecture. Alors, c'est en regardant un peu la parole de Dieu qu'il m'est venu à l'esprit un livre de l'Écriture qui parle de façon assez précise d'une situation un peu semblable à celle que vivent nos amis ou nos frères et sœurs, même aussi ukrainiens, en ce moment. Ce livre, c'est le livre d'Habacuc. Alors, c'est un petit livre écrit par un petit prophète qui se trouve à la fin de nos Bibles. Alors, je vais vous faire une confession. Je n'ai jamais réussi de ma vie à savoir exactement où se trouvait chacun de ces livres des petits prophètes. Alors, j'ai décidé d'apprendre par cœur la liste de ces petits prophètes. Et à mon âge, je vous avoue que je considère que c'est un exploit. Alors, les petits prophètes, c'est Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, ensuite Michée, Nahum, Habacuc. Donc, c'est le huitième des petits prophètes. Et ensuite, il reste Sophonie, Agée, et les deux derniers, c'est Zacharie et Malachie. Je vois que je ne suis pas le seul à les connaître par cœur, alors voilà, répétez-les bien. Dans le fond, le secret pour les connaître, c'est de les répéter peut-être tous les jours ou plusieurs fois par jour. Donc, le livre d'Habacuc, vous voyez, j'ouvre ma Bible comme ça, et ça tombe sur Habacuc, ça montre que je l'ai pas mal lu ces derniers temps. Et il n'a que 3 chapitres. C'est un petit livre, mais nous ne savons pas grand-chose du prophète Habacuc. Il se présente comme prophète. Moi, j'ai sentence, ce qu'Habacuc, le prophète, a vu. C'est-à-dire, il se présente comme celui qui proclame la parole de Dieu à son peuple. Et bien sûr, nous savons, j'espère tous, que la Bible est la parole de Dieu, pas seulement à son peuple, mais au monde. Et Habacuc a reçu des visions, ou même des révélations de la part de Dieu, d'ailleurs comme l'apôtre Jean dans son Apocalypse, hein, et que Dieu lui a demandé de les graver, ces visions, ces révélations, sur des tablettes d'argile, je crois, à l'époque. Mais tout cela a été si bien gravé et gardé que nous les avons sous les yeux en ce moment et que des millions de personnes peuvent encore les lire aujourd'hui. Habacuc est probablement un contemporain du prophète Jérémie. Alors le prophète Jérémie, c'est celui qui a prophétisé juste avant la chute, la destruction de la ville de Jérusalem et aussi de la destruction du temple qui a eu lieu en 586 ou 587 avant Jésus-Christ. Jérusalem a été rasée, les habitants ont été déportés, d'ailleurs Daniel en parle dans son livre, Ézéchiel aussi en Babylonie, la grande puissance montante à cette époque, c'était Babylone ou la Chaldée. Il y a deux noms, hein, les Babyloniens ou les Chaldéens. Et donc Habacuc est probablement un contemporain de Jérémie qui a vécu ces événements de la chute de Jérusalem. Et il a connu ces signes précurseurs d'une très grande catastrophe, et c'est l'une des périodes les plus sombres de l'histoire d'Israël. Alors le livre d'Habacuc pose les questions que nous nous posons tous dans les périodes de crise, de guerre ou de menace de guerre. C'est pourquoi je pense que son livre est d'actualité. Même si nous ne pouvons pas superposer les événements actuels sur ceux d'Habacuc ou les événements d'Habacuc sur les nôtres aujourd'hui, mais ces événements et son livre entrent en résonance, on pourrait dire, avec notre époque actuelle. Habacuc est un homme angoissé, effrayé même, par ce qui se profile à l'horizon. Et il ne comprend pas pourquoi Dieu reste silencieux, sans agir. Il est sensible à la corruption qui ronge la société dans laquelle il vit et à la violence qui va s'abattre sur son pays. C'est pourquoi son livre commence par une prière et se termine par un psaume qui est aussi une prière. Trois versets semblent se détacher de son livre comme des phares qui brillent sur une mer déchaînée. Chapitre 2, verset 4. Le juste vivra par sa foi. C'est un principe, la foi, c'est un principe qui traverse toute l'Écriture. C'est le principe pour aller à Dieu. La foi, toujours, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, je vais vous faire participer un petit peu. Quel est le premier homme de la Bible dont il a été question de sa foi en Dieu? Abraham, Abel, Noé. Alors, dans l'ordre chronologique, ça commence par Abel, ensuite par Noé et ensuite par Abraham. Donc c'est bien Abel, oui, c'est bien Abel. L'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice agréable à Dieu. Par la foi. Donc Abel, voilà. Mais la foi, c'est ce qu'il faut pour s'approcher de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, dit aussi, je crois, l'Épître aux Hébreux. Donc le juste vivra par sa foi. Deuxième verset qui se détache de ce livre, chapitre 2, verset 14, « Car la terre sera remplie de connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » Habacuc cite ici Ésaïe, chapitre 11, verset 9. Alors, Ésaïe, c'est quoi à peu près 120 ans, 150 ans avant la destruction de Jérusalem. Donc, Habacuc, à moins que Dieu lui ait donné exactement, presque mot pour mot, la même révélation, c'est possible. Mais je pense plutôt qu'il avait lu le livre d'Ésaïe, qui parle du Messie, et qui viendra mettre un terme à notre monde gouverné par le mal, le péché, et son instigateur, le diable, Satan, avec son esprit d'aveuglement et d'instigation au mal. Ce verset, la connaissance de l'Éternel sera comme les eaux qui recouvrent le fond des mers, sera totale, elle sera universelle, et elle concerne la terre nouvelle, les cieux nouveaux dont nous parle le Nouveau Testament. Et puis chapitre 3, verset 13, « Tu, c'est-à-dire Dieu, tu t'es mis en route pour délivrer ton peuple et pour sauver ton roi qui a reçu l'onction. » Alors vous vous souvenez que la dernière fois que j'étais là, je vous ai parlé de celui qui a reçu l'onction de ce fils dont parle le psaume 2. Et, encore une fois, dans la traduction grecque, appelée la traduction des Septante, le texte dit « pour sauver ton Christ ». On retrouve ici loin du Seigneur, l'apostrophe O-I-N-T, celui qui a reçu l'onction, ou le Christ du Seigneur, déjà cité dans le psaume 2. Il s'agit donc plus qu'une simple libération physique ou militaire ou politique. Il s'agit de l'établissement du royaume de Dieu comme étant la finalité, comme étant la victoire de Dieu sur les forces du mal. Alors venons-en maintenant au texte lui-même. Mais d'abord, je vais m'éclaircir un petit peu la voix. Les premiers mots font le constat d'une situation... Alors, je vais lire chapitre 1, verset 1, 4. Donc, sentence, ce qu'Habacuc, le prophète, a vu. « Jusqu'à quand, Seigneur, appellerai-je au secours sans que tu entendes ? Jusqu'à quand crierai-je vers toi, violence, sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression ? Ravages et violences sont devant moi, il y a des querelles et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et l'équité ne s'impose jamais, parce que le méchant assaille le juste. C'est pour cela que l'équité est pervertie avant de pouvoir s'imposer. » Donc, Habacuc fait le constat d'une situation insupportable. Mal, oppression, ravage, violence. Et tout cela provoque l'appel au secours d'Habacuc. Et cet appel est adressé au Seigneur. Jusqu'à quand ? Et pourquoi ? Pourquoi, Seigneur ? Le ton du livre est donné. Habacuc est exaspéré. Mais Dieu n'arrête pas le mal qui ronge son peuple et la violence qui s'abat sur lui. Pourquoi, Seigneur, et jusqu'à quand ? Alors on remarque chez Habacuc une grande liberté de parole. Il fait part à son Dieu de ce qu'il a sur le cœur. Et il exprime librement ce qu'il ne comprend pas. Il interpelle Dieu, car c'est Dieu qui, en fait, tient la clé de la solution. Telle est, je crois, sa conception de la prière. Et Dieu va lui répondre à deux reprises. C'est donc qu'il ne reste pas silencieux. Mais la réponse de Dieu se situe aux antipodes des souhaits d'Habacuc. Je suscite les Chaldéens, les Babyloniens, dit Dieu. Alors lisons chapitre 1 maintenant, versets 5 à 11. Voyez, regardez parmi les nations, dit Dieu, parce que c'est Dieu qui parle maintenant. Soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car une œuvre est en train de s'accomplir que vous ne croiriez pas si on la racontait. Je suscite les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux qui traverse de vastes pays pour prendre possession de demeures qui ne lui appartiennent pas. Il est terrible et redoutable. Il impose lui-même son droit et sa suprématie. Ses chevaux sont plus rapides que des léopards, plus mordants que les loups du soir. Ses chars se déploient, ses chars viennent de loin, il vole comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout entier, il arrive pour la violence, le visage tendu vers l'avant. Il amasse des captifs comme du sable. Lui, il se moque des rois. Il rit des princes, il se rit de toute forteresse. Il amoncelle de la terre et il la prend. Alors un souffle passe et s'en va, il se met en tort. Lui dont la force est pour son Dieu, ou on pourrait traduire aussi, lui, ou plutôt on pourrait traduire sa force, voilà son Dieu. Ouf, c'est pas facile. Ni à recevoir, ni à comprendre. Et c'est bien aussi tout le problème d'Habacuc. Dieu suscite un peuple terriblement meurtrier, les Chaldéens, ce qui veut dire que la situation de Juda, prise en étau, sachant ce qui va se passer, sera encore pire ce qu'elle était et ce que le prophète vient de dénoncer, cette injustice. Habacuc est atterré. Il ne comprend pas l'action de son Dieu. Et toujours dans la prière, il lui répond, versets 12, 13, « Mais toi, n'es-tu pas dès le temps jadis, Seigneur, mon Dieu, mon saint ? Tu ne meurs pas. Seigneur, tu l'as établi pour le jugement, mon rocher. Tu l'as institué pour châtier. » Et on pourrait dire, « Mais tes yeux sont trop purs pour voir ce qui est mauvais. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Pourquoi donc regardes-tu les traîtres ? Pourquoi gardes-tu le silence quand un méchant engloutit plus juste que lui ? Tu traites les humains comme les poissons de la mer. » Autrement dit, tu laisses les gens se faire prendre comme des poissons dans un filet. Mais à la question « Pourquoi Dieu a-t-il suscité un peuple si terrible et redoutable ?» Habacuc a compris que Dieu exerce son jugement. Je lis la deuxième partie du verset 12. « Seigneur, tu l'as établi. » Là, le L apostrophe, c'est les Babyloniens, le peuple babylonien. « Pour le jugement, mon rocher, tu l'as institué pour châtier. » Et au verset 17, « Alors, va-t-il vider son filet et massacrer des nations constamment, sans épargner personne ?» Terrible. Faisons maintenant un pas de géant. Déplaçons-nous 6 siècles plus tard. Donc nous sommes en l'an 600 avant Jésus-Christ. 6 siècles plus tard, c'est 40 après Jésus-Christ. Et on se trouve dans Acte 13 à partir du verset 13. Acte 13, verset 13. L'apôtre Paul parle dans la synagogue, je crois, d'Antioche de Pisidie. Il y a plusieurs Antioches dans le Nouveau Testament. Là, c'est une petite ville. Aujourd'hui, ça se trouverait en Turquie, hein, un petit peu le centre-est de la Turquie. Et dans cette synagogue, les juifs de cette synagogue écoutent l'apôtre Paul lors d'un office du sabbat. Et après leur avoir dit que Dieu a donné au peuple juif un sauveur en Jésus, et que les habitants de Jérusalem ne l'ont pas reconnu comme tel, qu'ils l'ont condamné à mort, Paul dit que Dieu l'a ressuscité des morts et que beaucoup de témoins peuvent encore l'attester. Et après avoir annoncé la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, Paul les met en garde en citant Habacuc, chapitre 1, verset 5. Et je vous lis donc Acte 13, verset 38 à 40, qui se trouve un peu vers la fin de cette prédication de l'apôtre Paul dans cette synagogue d'Antioche de Pisidie. Je cite « Mes frères, je ne sais pas s'il y avait des sœurs aussi, probablement, hein, mais ils devaient être séparés, mais enfin, mes frères et sœurs, sachez-le donc, c'est par lui, par Jésus, que le pardon des péchés est annoncé. De tout ce dont vous n'avez pas pu être justifié par la loi de Moïse, de tout cela en lui, quiconque croit, c'est-à-dire met sa foi en Jésus, est justifié. » Et voilà maintenant la mise en garde de l'apôtre Paul. « Prenez donc garde qu'il n'arrive ce qui est dit dans les prophètes. Alors il cite de mémoire, mais c'est Habacuc 1.5. Regardez, vous qui êtes plein de mépris, étonnez-vous et disparaissez, car moi je vais accomplir une œuvre que vous ne croiriez jamais si on vous la racontait. Ce dont Paul les mettait en garde, c'est une conséquence de leur rejet du Messie de Dieu, Jésus-Christ, comme à l'époque d'Habacuc, dont la mise en garde a été suivie de la destruction de Jérusalem et de son temple. Et c'est ce qui s'est passé. Une trentaine d'années après la prédication de Paul à Antioche de Pisidie, avec de nouveau la destruction de Jérusalem et de son temple en l'an 70 de notre ère. Alors je crois qu'il faut ici être prudent. On ne peut pas superposer les événements qui se sont passés en 587 avant Jésus-Christ ou en 70 après Jésus-Christ, sur les événements actuels qui se passent en Ukraine. Attention aux amalgames. Les événements de 587 et de 70 sont attestés par l'Écriture comme étant un jugement sur le peuple d'Israël. Ceux qui ont suivi, en particulier la Shoah, la Deuxième Guerre mondiale, j'aurais pu en citer d'autres, mais pour prendre ceux qui sont les plus proches de nous, ceux que nous vivons aujourd'hui en Ukraine ne sont pas attestés par l'Écriture comme étant de la même nature. Ils sont d'un autre ordre. Celui qui relève dans l'Écriture de l'Antichrist, c'est-à-dire des forces sataniques qui s'opposent à Dieu et à sa justice, comme on les trouve dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, ou encore dans la première épître de Jean, où il parle des antichrists. Donc, ne faisons pas d'amalgame. Et puis, quand Dieu dit « Je suscite les Chaldéens, les Babyloniens, pour exercer mon jugement sur mon peuple qui ne m'a pas écouté », je crois qu'il faut être prudent aussi avec ces paroles. Et je vous cite Henri Blocher, qui pour moi est le plus grand théologien actuel du monde évangélique. Et je pense même que, mais ça ne regarde que moi, vous n'êtes pas obligé d'accepter ça, que Dieu a donné Billy Graham au peuple américain et au monde, comme Dieu a donné Henri Blocher au peuple français, et pourquoi pas aussi au monde. Mais je referme la parenthèse. Henri Blocher écrit « Le mal ne procède pas de Dieu. » Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il n'y a pas de mal en lui, jamais. Je reprends. « Le mal ne procède pas de Dieu. » Mais il dépend toujours de ses décrets. Et c'est pour l'exprimer que le texte biblique va jusqu'à dire Dieu, qui en ce sens pourrait être considéré comme l'auteur du mal. Quand ici Dieu dit « Je suscite les Chaldéens », ça ne veut pas dire que le mal procède de lui. Mais, alors Henri Blocher écrit maintenant, en ce sens, le choc éprouvé à la lecture doit inscrire profondément la vérité du Dieu souverain en notre cœur. Les théologiens parlent de la souveraine permission de Dieu. Dieu, dans ce cas, n'a pas opéré le vouloir et le faire selon le bien, comme il est dit en Philippiens 2.13, sans produire lui-même le mal, qui est le contraire de sa nature. Et là, on ne prétend pas expliquer. Le mystère reste opaque. Alors, premièrement, le mal ne procède pas de Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu est l'auteur du bien et il est le bien lui-même. Et c'est lui qui suscite le vouloir et le faire. Mais en acceptant que le mal puisse, on pourrait dire, se multiplier, progresser, il le permet. En le permettant, il le permet. Enfin, j'essaie de chercher mes mots. Hein. Mais ça reste un mystère qu'on ne peut pas expliquer, un mystère opaque. Alors, voilà un peu, je pense, l'explication de ce « Je suscite les Chaldéens ». Jésus a une parole révélatrice, je crois aussi, à ce sujet. Et nous pouvons lire Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Luc 13, 1 à 5. En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous de même. Ou encore, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas radicalement, vous disparaîtrez tous pareillement. Les Ukrainiens ne sont pas plus coupables que nous. Les Russes ne sont pas plus coupables non plus, que ceux du monde entier. Nous avons tous, quel que soit notre pays, notre nation, à nous repentir de nos péchés et à accepter Jésus comme notre seul sauveur qui nous réconcilie avec Dieu. Et je crois que les moments de guerre, de crise, rapprochent de Dieu. Malheureusement, quand tout va bien, on oublie Dieu. Mais quand ça va mal, on se rapproche de Dieu. Je lis maintenant le chapitre 2, versets 1 à 4, à Habacuc. Chapitre 2, versets 1 à 4. Ah, il faut que je retrouve mon livre d'Habacuc. Voilà, Nahum, Habacuc. Chapitre 2, versets 1 à 4. « Je vais me placer à mon poste de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai au sujet de mes doléances. Le Seigneur me répondit, écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment, car c'est encore une vision pour le temps fixé, elle aspire à son terme, elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle se réalisera bel et bien, elle ne sera pas différée. Son cœur se gonfle, il n'est pas droit, mais le juste vivra par sa foi. » Je vais me placer à mon poste. On dirait aujourd'hui à son poste de radio, à son poste de télévision, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Habacuc ne se désintéresse pas des événements qui concernent son pays, sa situation, sa ville. Et Dieu lui répond une deuxième fois. Il lui dit deux choses. Si elle tarde, ben attends-la. Car elle se réalisera bel et bien. Et il lui dit, le juste vivra par sa foi. La foi, c'est la confiance, c'est l'espérance que le juste, celui qui est justifié, disait l'apôtre Paul tout à l'heure, il croit aussi, celui qui est juste, que Dieu est le maître de l'histoire et des hommes qui la font, qui les utilise à ses fins, et que son règne de justice et de paix va s'établir quoi qu'il arrive. Nous attendons, écrit l'apôtre Pierre, selon sa promesse, des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habitera. Nous attendons, cette parole, cette attente, est comme l'écho de la parole de Dieu à Habacuc, si elle tarde. Attends-la. C'est pourquoi nous aussi, nous devons être des veilleurs et des prieurs de ceux qui veillent et de ceux qui prient. Et le troisième chapitre du livre d'Habacuc, c'est un psaume sur le mode des complaintes. Nous lirons seulement les deux premiers versets. Prière d'Habacuc, le prophète, sur le mode des complaintes. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Je crains ton action, Seigneur, dont le cours des années réalisera, dont le cours des années fait la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Ses regards se portent sur la puissance effrayante de Dieu, sur son action libératrice et définitive. Dieu sort de son ciel, illuminé par son éclat, pour, dit le verset 13, le salut de ton peuple, le salut de l'homme qui a reçu ton onction. C'est l'annonce de la victoire totale de Dieu sur les forces du mal. Puis ensuite, Habacuc revient à la dure réalité de son temps. Verset 16 du chapitre 3, « J'ai entendu, et mes lèvres ont frémi. À ce bruit, mes lèvres balbutient, mes os pourrissent, et sans bouger, je frémis d'attendre le jour de la détresse où notre assaillant attaquera le peuple. » Puis au verset 18, ces derniers mots expriment sa foi en Dieu. Mais moi, j'exulterai dans le Seigneur. Je trouverai de l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Dieu, le Seigneur, est ma force. Au chapitre 1, verset 11, il est dit de l'armée des Chaldéens, « Sa force, voilà son Dieu. Pour Habacuc, son Dieu, c'est le Seigneur, l'Éternel, qui fait ce qu'il veut, qui accomplit sa parole jusqu'au bout, quels que soient les événements qui pourraient ou qui donnent l'impression de l'en empêcher. Pour Habacuc, son Dieu, c'est le Dieu de son salut. » Alors je conclus, Habacuc dénonce les crimes des conquérants babyloniens, leurs actes de barbarie, la violence, le pillage, les traitements dégradants infligés au peuple vaincu, la destruction de l'environnement, tout cela il la dénonce. Mais la chute de Babylone, annoncée dans les cinq malheurs qu'on trouve au chapitre 2, manifestera que l'Éternel seul est le Dieu vivant, qui est le Dieu souverain sur toutes les nations. Ces cinq malheurs s'abattent sur des pouvoirs orgueilleux, forts de leur puissance militaire, qui bâtissent des villes sur le sang et la violence. L'histoire se répète, mais les royaumes de ce monde ne restent pas éternellement ou même pas longtemps, si on les mesure à l'étendue de l'histoire. Et ces cinq malheurs sont entrecoupés de deux paroles fortes, adressées à toute la terre, pas seulement au peuple d'Israël. Verset 14, « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux recouvrent la mer. » Et ce sera la conclusion d'Habacuc, au verset 20. Non, moi j'ai verset 19. Alors, non, c'est le chapitre 2. C'est le chapitre 2 qui se termine par le verset 20. « Mais le Seigneur est dans son temple sacré, silence devant lui toute la terre. » Silence devant lui toute la terre. Ce que Dieu nous demande, c'est de lui faire confiance et d'exercer jusqu'au bout, malgré les épreuves, ou malgré peut-être aussi notre angoisse, d'exercer notre foi en lui. Dieu nous montre comment il agit dans l'Écriture. Sa colère se manifeste aussi, pas seulement sa bonté, sa colère. Il juge, mais ces royaumes qu'il utilise d'une certaine façon auront aussi des comptes à rendre au Seigneur. Et la façon dont Dieu agit avec les Babyloniens peut nous servir de modèle. Et il est repris d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse comme le type, le modèle d'une société sans Dieu, qui mise tout sur le profit, sur la richesse, sur sa façon de compter uniquement sur lui-même. Que Dieu nous aide à vraiment nous tenir aussi sur notre poste de garde, c'est-à-dire dans la prière, en nous informant de ce qui se passe, mais aussi dans la foi dans ce Dieu vivant. Amen.